après une si longue absence. Ce n'est pas le titre de la prédication. C'est le titre d'un film qui obtient la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1961. Vous n'étiez pas né encore, hein, enfin certains d'entre vous. Un film qui parle de la perte de mémoire, de l'amnésie. Enfin, je ne vais pas vous raconter ma vie. Alors, je suis très heureux de me retrouver parmi vous aujourd'hui. La belle assistance que voilà, une belle salle. Oh là là, vous vivez dans le luxe, enfin vous confessez. Mais bon, c'est vraiment encourageant. Bon, j'ai connu les tout débuts rue du Mont-Cenis dans une petite maison. Après ici, dans la salle, enfin bref. Je vois que l'évolution est spectaculaire et je constate que le Seigneur vous bénit. Vous avez beaucoup travaillé pour aménager ce local, mais le résultat est là. Alors, je suis heureux de vous revoir. Vous êtes dans mes prières chaque jour et je veux vous redire ma grande affection pour chacun de vous. J'aperçois quelques visages qui ne me sont pas encore connus, mais c'est bon signe. Et vraiment, le Seigneur est à l'œuvre au milieu de vous. Alors aujourd'hui, il paraît qu'il y a une boum cet après-midi, une AGO, Assemblée Générale Ordinaire, qui est une rencontre annuelle imposée par les autorités civiles. Alors, les bilans divers et variés, les prévisions, la trésorerie, ah ça c'est important, la trésorerie, et autant d'éléments qui peuvent nous paraître contraignants, pesants, mais ne devons-nous pas être soumis aux autorités, c'est ce que dit Paul, ce qu'il écrit en Romains 13. Mais nous savons qu'il y a quelque chose de plus qu'une assemblée générale. Parce que si nous sommes constitués en association, c'est bien ça, nous sommes une association cultuelle, que certains qualifient de culturelle, mais enfin bon, passons. Et si c'est ainsi, c'est parce que nous sommes une église. Nous sommes l'église de Jésus-Christ, rue Albert Ier, c'est bien cela. L'Église de Jésus-Christ, pas une partie de l'Église, l'Église. Alors, je vous invite à nous arrêter un peu ce matin à cette notion d'Église, avec cette formulation que donne l'apôtre Pierre, nous allons lire le passage, celle de maison spirituelle. Nous sommes une maison spirituelle. 1 Pierre, chapitre 2. Donc, premier épître de Pierre au chapitre 2, les versets 4 à 10. Alors, nous lisons. Pour situer les choses, disons que rappelons que cette lettre est adressée à des disciples qui sont étrangers et dispersés en Asie mineure et dans la partie occidentale, on appelait l'Anatolie. Et voici ce qu'il leur écrit. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » C'est un beau passage. Et nous allons essayer de voir ce qu'il veut nous dire. Ce que nous constatons, c'est que cette exhortation, cette invitation est centrée sur Jésus-Christ. Et les destinataires de cette lettre sont invités à tenir ferme, parce qu'apparemment, ils sont très éprouvés. Et on pense qu'ils étaient persécutés suite à la vague de persécution qui a été déclenchée sous l'empereur Néron. Alors, êtes-vous persécuté, vous, ici au Creusot ? Non. Enfin, pas violemment. On ne vient pas vous arrêter pour vous emprisonner. Enfin, pas encore. Ça viendra peut-être, mais enfin, moi, je ne serai plus là pour le voir. Donc, est-ce que nous ne faisons pas, cependant, l'objet d'une certaine animosité de la part de certains de nos contemporains ? Pas tous, heureusement. Mais nous rencontrons de l'antipathie, ou de la discorde, ou dissentiment, parce que nous témoignons de notre foi. Et certaines personnes ne le comprennent pas, ou ne l'acceptent pas, etc. Alors, Pierre va nous encourager, nous aussi, ce matin. On va voir ça en trois parties, la maison spirituelle, le sacerdoce et les réactions qui sont provoquées. Alors, Pierre invite à un mouvement. Verset 4. Approchez-vous de lui. Lui, c'est le Seigneur qui est désigné juste au-dessus au verset 3. Approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Alors cette approche a peut-être celle de jeunes convertis ou de vieux convertis, etc. Ça n'est pas facile à interpréter, mais la démarche est la même. Et s'approcher va plus loin que venir voir ce qui se passe. Ça a le sens ici de s'appuyer sur, faire corps avec, être en communion permanente, intime avec la pierre vivante, c'est-à-dire avec Jésus-Christ. C'est à cela que nous sommes invités. Il ne s'agit pas de faire un petit tour et puis s'en aller, hein, comme dans la chanson enfantine. Et la suite, s'approcher est une chose, verset 5, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Il ne s'agit pas seulement de s'approcher, de s'arrêter, etc. Il faut s'édifier, être édifié. Il y a plusieurs traductions possibles, mais bon, je pense que vous comprenez la métaphore qui est celle d'une construction pour désigner l'Église, un bâtiment. Hein. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Voilà ce que vous êtes, vous ici, rue Albert Ier, numéro 22, je crois. Une maison spirituelle. Est-ce que vous le croyez ? Oui, j'espère. Est-ce que vous le comprenez ? C'est plus difficile. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, ça veut dire que vous êtes l'Église. Vous représentez l'Église de Jésus-Christ. Vous la manifestez. Vous l'exprimez localement. Ici et pas ailleurs. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait d'autres groupes qui se réunissent. Édifiez-vous. Et l'apôtre Pierre insiste ici sur le fondement de l'Église. Un édifice a un fondement, en principe, sinon tout s'écroule. Et la base, eh bien, vous la connaissez. Alors, je ne veux pas faire un cours d'architecture ou de travaux publics à des frères qui ont travaillé d'arrache-pied pour faire de cette salle vraiment quelque chose de bien, quelque chose d'attrayant, quelque chose d'attirant. Hein. Il y a même des baies vitrées, on peut surveiller, s'il n'y a pas un voleur qui vient s'intéresser à votre voiture. C'est bien, c'est très lumineux, c'est vraiment agréable. Alors, édifiez-vous sur la pierre vivante. matière vivante, vous l'avez compris, c'est Jésus-Christ. Vous êtes en train de vous approcher, soit, mais maintenant, édifiez-vous sur lui, fondez votre vie spirituelle sur lui. Et édifiez-vous, c'est un pluriel, ça peut revêtir un aspect communautaire, et ça nous signifie aussi que nous ne devons pas rester isolés. Une pierre qui est là, dans son coin, et dont on ne sait que faire. Donc vous êtes appelés à constituer un édifice harmonieux, cohérent. Et en tant que pierre, c'est ce qui va être dit, vous devez refléter le caractère de la pierre de base, de la pierre vivante. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Édifiez-vous comme des pierres vivantes. Alors, une petite question, frères et sœurs. Est-ce que vous vous considérez comme une pierre vivante? Ah. Vous vivez, bon. Comme tous les êtres vivants, forcément. Mais une pierre vivante. Pourquoi vivante? Parce que vivant de la vie de Christ que j'avais reçue lors de votre conversion à Dieu. Des pierres vivantes. L'apôtre Paul l'a exprimé de différentes façons, à différents moments, enfin, dans différents écrits. Vous connaissez cette célèbre réplique, enfin, réplique, affirmation de Galates 2:20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Facile à dire? Vous arrivez? Ah, on donnerait la recette. C'est pas évident. Et Paul écrit aussi aux Philippiens, Philippiens 1:21, « Christ est ma vie ». Ça va sans dire long, ça va loin. « Christ est ma vie ». Mais pour ma part, parfois je ne sais pas si c'est la réalité. Il y a des hauts et des bas. Alors, cette pierre vivante nous montre que devenu à notre tour pierre vivante, eh bien, ce n'est pas de notre fait. C'est en vertu de l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. C'est parce que Dieu nous a identifiés à Jésus-Christ qui nous a rendus participants de la vie de Christ. C'est peut-être plus difficile à comprendre, mais enfin bon, le Seigneur vous inspirera. Et puis cette pierre vivante, elle doit se laisser faire, si j'ose dire, elle doit être taillée, façonné pour être à la place que Dieu lui a destinée, et non pas à la place que l'on aurait choisie. Parce que, bon, il y a des pierres qui sont dans des positions plus avantageuses dans un édifice, ou qui ont une fonction plus importante, la plus importante étant la pierre de base, la pierre angulaire, mais nous devons accepter que le Seigneur nous façonne pour que nous soyons utiles à son service. Donc, des pierres vivantes qui s'édifient. Et le Seigneur, Paul, il parle du Seigneur et cite l'Ancien Testament, Ésaïe 28:16. Voici, verset 6, « Je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Alors, là encore la construction. Et nous pouvons être certains que la base de l'Église est solide, puisque c'est la personne même du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Paul rappelle aux Corinthiens, 1 Corinthiens 3:11, « Il n'y a pas d'autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » Il n'y en a pas d'autre. Alors après, bien sûr, on peut bâtir un peu n'importe comment, avec de la paille, avec du... Enfin bref, des choses qui ne tiennent pas. Ce fondement, cette pierre vivante, reçoit cette qualification, qualificatif de la part de Dieu. Elle est choisie par lui. Elle est précieuse. C'est lui qui a décidé que cette pierre serait le fondement de l'Église. Hein. Ce n'est pas l'apôtre Pierre lui-même. C'est une pierre précieuse. Précieuse aux yeux de Dieu, parce que c'est son fils. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 3,17 par exemple. Je n'ai pas mis mon affection, j'ai mis toute mon affection. Et cela en dit long, quand c'est exprimé par Dieu lui-même. Alors, en vertu de ces qualités, eh bien, l'édifice va tenir, bien qu'il soit, comme ça a été dit dans une prière tout à l'heure, le phare qui est au milieu de la mer, puis qui tient le coup. Hein, hein Raymond, c'est ça? Oui. Bon. Alors, ce fondement, cette pierre choisie vivante, Dieu lui a donné une place d'honneur. Dieu lui a donné la place principale. La pierre angulaire, qui en principe est à la jonction de deux murs orthogonaux. Une pierre angulaire à partir de laquelle l'édifice monte, est monté, donc il va tenir. C'est le repère, c'est la référence au départ de la construction. Alors, donc cette pierre est importante. Alors, vous êtes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Donc, l'image de l'édifice est parlante, mais un édifice, c'est bien. Des édifices, disons, religieux, il y en a beaucoup, partout, dans toutes les confessions, hein, pas seulement chez les disciples de Christ. Il y en a chez les bouddhistes, il y en a chez les musulmans, il y en a chez tout. Chaque religion a son édifice typique. Mais ici, il y a une suite. Vous êtes édifiés pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Donc le bâtiment, c'est une chose, l'édifice, c'est une chose, mais quel est son objectif? Quel est le but? Autrement dit, quel rôle doivent jouer les pierres vivantes qui le constituent? Deuxième partie, sacerdoce. Alors, le but, c'est de voir s'exercer ce sacerdoce. Vous, au contraire, verset 9, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de Dieu. Ça vient à cela en résumé. Et cela rappelle ce que Dieu disait au peuple de l'Ancienne Alliance, Exode 19,6, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » C'est-à-dire que vous m'offrirez des sacrifices de différents ordres. Vous devez refléter ma personne et cela doit être visible aux yeux du monde, c'est-à-dire des nations païennes environnantes, parce que vous êtes une race élue. Vous êtes d'accord avec cela? Quand on dit mot race aujourd'hui, ça, hein, on n'ose plus trop. Donc nous sommes une race élue parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes un sacerdoce royal, c'est-à-dire que nous proclamons la souveraineté, la royauté de Dieu. Nous sommes une nation sainte. Oh là là, qui nous rapportait? Non, cela veut dire que nous sommes mis à part par Dieu pour être ses serviteurs. Et nous sommes un peuple acquis, c'est-à-dire nous appartenons à Dieu. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Alors, est-ce que nous avons conscience d'être cela, frères et sœurs? Une race, un sacerdoce, une nation, un peuple. Parfois, nous le demandons vraiment. Est-ce que nous le croyons? Mais Christ a aimé l'Église et il veut la faire paraître devant lui, sans tache, ni ride, ça dépend de notre âge, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que le Seigneur, enfin Dieu nous voit à travers le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il n'y a pas de complexe à avoir. Il faut quand même être réaliste sur sa situation. Mais nous sommes des sacrificateurs. Parce que la louange va à celui qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Alors, comme dit Apocalypse 1:6, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors, que fait un sacrificateur? Ben, il offre des sacrifices, par définition. Hein. Alors, avez-vous affûté votre couteau? Si vous êtes pauvre, ben vous pouvez apporter un oiseau, ce que dit l'Écriture. Hein. Bon, il ne s'agit pas de faire de la dissection, mais nous formons un saint sacerdoce et nous avons à offrir des victimes. Parallèle avec le culte de l'Ancienne Alliance, on offrait des animaux, avant que Dieu n'offre son propre Fils. Mais nous, nous avons à offrir des victimes, verset 5, des victimes spirituelles. Et ces victimes spirituelles seront agréables à Dieu, par Jésus-Christ. C'est important. Par Jésus-Christ. Alors, quelques exemples de victimes spirituelles. Alors, nos corps. C'est spirituel, hein, nos corps. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Romains 12, 1. Alors, il ne s'agit pas de s'immoler, même si dans certaines cultures ou certains pays, c'est une pratique qui arrive encore. Enfin, peut-être pas jusqu'au bout, mais bon. Nos corps, c'est nos forces physiques que nous vont mettre au service du Seigneur. C'est notre enthousiasme, c'est notre énergie, c'est notre volonté. C'est pas notre chair, même si elle n'est plus très fraîche. Deuxième exemple, offrir notre louange. Offrez sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Tout à l'heure, nous avons eu un moment de prière. Eh bien, c'était la confession de nos lèvres, la reconnaissance que nous devons à Dieu, la louange que nous avons à lui apporter, parce qu'il en est vraiment digne. C'est encore la bienfaisance et la libéralité, car c'est là de tels sacrifices que Dieu prend plaisir, Hébreux 13, 16. Bref, nous arrêterons là l'énumération. Alors, ces victimes spirituelles que nous devons offrir, nous devons le faire par Jésus-Christ. Hein, c'est écrit, des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est notre médiateur avec Dieu. Il est entre Dieu et nous. Il est notre médiateur. Il intercède pour nous. Et Dieu agrée nos victimes, enfin celles que nous offrons, en vertu de l'œuvre de Christ et par Jésus-Christ, qui est toujours le médiateur. Alors, cette fonction de sacrificateur, eh bien, elle est celle de tout disciple de Jésus-Christ. Elle n'est pas réservée à une caste. Dans l'Ancienne Alliance, ce rôle était échu à la tribu de Lévi, et en particulier la famille d'Aaron. C'est eux qui entraient dans le lieu saint, une fois par an dans le lieu très saint, et qui offraient les sacrifices. Bon, bien sûr, il y avait des personnes qui s'occupaient de la fournaise, du bois, etc. Mais, alors que dans la Nouvelle Alliance, nous sommes tous des sacrificateurs. Il n'y a pas de clergé. Il ne faut pas dire ça. Enfin bon, bref, c'est comme ça. Tout disciple de Jésus-Christ, tout disciple digne de ce nom, tout vrai disciple est sacrificateur et c'est une grande responsabilité que d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Mais nous ne devons pas non plus nous contenter d'un culte d'offrande comme ça, même si elles sont agréables à Dieu. Le but est indiqué au verset 9. Nous sommes une race, une sacerdoce, une nation, un peuple, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà l'objectif. Voilà ce que Dieu propose. Annoncer les vertus de Dieu. Annoncer, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'inconnu. Et c'est faire part à nos contemporains de la grâce de Dieu au bénéfice de laquelle nous sommes. Lui qui nous a fait miséricorde, verset 10. Vous n'aviez pas obtenu miséricorde, mais maintenant vous avez obtenu miséricorde en vertu de l'œuvre du Seigneur. En somme, le Seigneur nous invite à être la lumière du monde, à être le sel de la terre, Matthieu 5, 13, 14. Voilà qui résume notre rôle de sacrificateur. Voilà qui résume ce que doit être notre sacerdoce. Est-ce facile? Chacun répondra pour lui. Parfois, le service laisse à désirer, mais bon. Le Seigneur nous encourage, et il le fait par l'intermédiaire de Pierre, à la fin de notre lecture. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, autrefois vous n'étiez rien, si on peut dire. On n'était rien, c'est un peu gênant. Et maintenant, vous êtes quelqu'un, si je puis dire. Vous êtes un peuple auquel Dieu a fait miséricorde. Parce que vous êtes passé des ténèbres à son admirable lumière lorsque vous vous êtes converti à Dieu. Alors voilà l'extraordinaire. Nous sommes, dit Pierre, le peuple de Dieu. En vertu, donc, toujours de l'œuvre rédemptrice accomplie par Christ. Alors, faire partie de l'édifice, de la maison spirituelle, exercer dans cette maison, façon de parler, un sacerdoce, oui, ça revient à évangéliser. Alors, pour terminer, les conséquences, les réactions à l'exercice de sacerdoce. Annoncer donc les vertus de Dieu, c'est de notre responsabilité de sacrificateur. Et en principe, cette annonce provoque une réaction chez nos interlocuteurs ou sur ceux qui nous observent. S'il n'y a pas de réaction, c'est inquiétant. Nous trouvons de l'acceptation de temps en temps. Nous trouvons beaucoup d'indifférence, nous trouvons aussi des désaccords et parfois même des oppositions tenaces. Pensons à nos frères et sœurs persécutés dans bien des pays aujourd'hui. Dans notre passage du jour, il est question, et nous l'avons sauté en passant volontairement, de pierre d'achoppement. La pierre d'achoppement, c'est Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire. Et une pierre d'achoppement, c'est une pierre sur laquelle on achoppe, ou sur laquelle on s'achoppe, selon l'expression. C'est-à-dire que l'on bute contre elle. Et cela provoque une division, si j'ose dire, c'est-à-dire l'apparition de deux catégories. Il y a celui qui croit, l'honneur est donc pour vous qui croyez, verset 7. Et puis il y a celui qui ne croit pas, celui qui est incrédule, ou qui reste incrédule, mais pour les incrédules, etc. Alors, heureux, est-il dit ici, celui qui croit, parce que l'honneur est pour lui. Croire ou ne pas croire, telle est la question, comme m'aurait dit, vous savez, c'est à propos de l'existence, être ou ne pas être. Alors l'incrédule, donc, lui, et c'est un petit peu développé ici, achoppe sur la pierre angulaire et il trébuche comme un piéton qui bute sur une pierre lors de sa marche. Boum. Et ce qui est source de salut, c'est-à-dire la personne de Jésus-Christ, devient alors pour lui le sujet d'une condamnation, puisqu'il ne croit pas. Par les incrédules invétérés, il y en a quelques-uns, hélas. Parce que l'incrédule peut avoir beaucoup de qualités, peut être intelligent, cultivé, etc., etc., mais il refuse l'évangile de Jésus-Christ. Un de mes beaux-frères, un peu plus vieux que moi, mais il est toujours en vie, refuse l'évangile. Il habite à Genève, il est même révolté contre Dieu, et ça depuis des années. Et il envoie par à sa sœur, enfin, moi, un peu moins souvent, des appréciations par mail qu'on qualifierait d'incendiaire, c'est-à-dire vraiment un rejet de Dieu qui est surprenant parce que cet homme, dès son enfance, a reçu une éducation chrétienne, ça ne veut pas dire grand-chose, mais enfin, il a eu le témoignage de sa famille, de ses parents qui étaient engagés. Eh bien, il continue aujourd'hui encore. Ils veulent maintenant. Sa femme était vraiment, disons, athée. Voilà. Elle était charmante, mais bon, ça ne sauve pas. Et alors, il s'insurge toujours, et encore, contre les catastrophes qui surviennent dans ce monde, contre les guerres, contre des enfants qui sont accidentés ou assassinés, etc., etc., etc. Autrement dit, il achoppe sans cesse contre la pierre angulaire. Il la rejette. Hein, c'est ce qui est dit ici. Il la rejette. Alors, nous prions pour lui, enfin la famille. Hein, il reste un frère et une sœur. Hein, les deux autres sont auprès du Seigneur. Il achoppe. C'est triste. Alors nous prions pour lui. Et jusqu'à présent, nous ne sommes pas exaucés. Pourquoi ? Dieu seul le sait. Alors, il fait partie de ce verset 8 qui se heurte à la pierre d'achoppement pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Ils ne sont pas destinés à être incrédules. Ils ne sont pas destinés à l'enfer. Mais ils sont destinés à se heurter sans cesse sur la pierre angulaire, sauf s'ils se convertissent à Dieu, ce qui n'est pas exclu parce que le Seigneur est tout puissant. Alors, on va terminer, cela nous montre que l'on ne peut pas rester neutre devant Jésus-Christ. Ou l'on croit ou l'on ne croit pas. Ça peut paraître simpliste, mais avec Dieu, il n'y a qu'une alternative. Il n'y a pas de milieu. C'est bleu ou noir. C'est pour ça que vous avez peint vos murs en gris clair. Croire ou ne pas croire. C'est certes une question de foi, croire, mais il y a plus. C'est aussi une question de volonté. La foi, ça ne vous tombe pas dessus comme ça, mais tout d'un coup. Une question de volonté, de recherche, d'approche de Dieu, approchez-vous de lui, etc. Et à ses détracteurs, Jésus un jour déclara, « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » C'est une parole dure, ça devait être Jean-Pharisien, je ne sais pas pourquoi. « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie, autrement dit, pour être sauvé. » C'est ça, avoir la vie du Christ, c'est être sauvé. Jean 5, 40. Vous ne voulez pas passer des ténèbres à la lumière. C'est tragique, mais bon, nous ne pouvons que prier et que le Saint-Esprit fasse le reste. Alors en conclusion, cette lecture de 1 Pierre 2 nous rappelle que Christ est au centre. Il est au centre. Il est pierre vivante, il est pierre angulaire, il est pierre précieuse et choisie par Dieu. Et ce Jésus, cette pierre, elle a été rejetée. C'est écrit ici aussi. Elle a été rejetée. Verset 4. pierre vivante rejetée par les hommes. Toujours nouveau, enfin pas nouveau. Puis ça a commencé de bonne heure, parce qu'il n'y avait pas de place pour l'enfant Jésus à l'hôtellerie. Il était déjà rejeté. Et ça a continué. Alors, un encouragement quand même, c'est que la possibilité de s'approcher de la pierre et de faire partie de l'édifice, de la maison de Dieu, de la maison spirituelle, est encore offerte aujourd'hui. Elle est offerte à tous, creusotins ou autres. Nous, vous, nous sommes maison spirituelle. Comme écrit Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 19, nous sommes gens de la maison de Dieu. N'est-ce pas un privilège? N'est-ce pas extraordinaire quand on pense à la toute-puissance de Dieu, à sa gloire? Tout à l'heure, dans les prières, plusieurs fois, Dieu a été évoqué, enfin nommé comme le Créateur. J'ai parlé de la création de Dieu qui est extraordinaire, même si elle a été pas mal défigurée par l'homme, mais elle est encore extraordinaire. Et j'y pensais en venant ce matin, en voyant la campagne, un grand soleil, moins 4, moins 5, mais enfin c'est pas grave, de la brume, du givre, mais c'est extraordinaire. Enfin peut-être que je suis un peu gaga maintenant et je m'émerveille comme un bébé, mais bon, enfin un bébé s'émerveille pas encore, il crie. Alors, voilà où nous en sommes, gens de la maison de Dieu qui devons annoncer les vertus du Seigneur, c'est-à-dire sa sainteté, sa toute-puissance et sa souveraineté. Alors que vous sentez à la hauteur de la tâche, est-ce que ce sacerdoce ne vous effraie pas trop? Oh, vous savez, je suis timide, je n'ose pas parler. Je n'ai pas fait de grandes études bibliques. Oh. Et pourtant, le Seigneur vous dit, persévérez. Les frères et sœurs d'Asie mineure qui étaient persécutés et qui, verset 6 du chapitre 1er, étaient attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, eh bien, étaient encouragés par l'apôtre Pierre. Alors, que la maison spirituelle de la rue Albert, 1er, Haut, Creusot, Saône-et-Loire, Bourgogne, enfin bref, j'arrête là, rayonne, qu'elle resplendisse. Hein? Je vois des sourires là, c'est encourageant. Hein? J'ai bien continué. Il y a ces gens qui ont l'air tristes et déprimés autour de nous. Eh bien, qu'elle rayonne. Et qu'elle ne soit pas simplement perçue comme une association, comme une autre. Parce que des associations, il y en a beaucoup, même si elle est cultuelle, mais qu'elle brille dans ce quartier, qu'elle attire vers le Seigneur, qu'elle oriente vers le Seigneur. C'est notre responsabilité à tous, n'est-ce pas? Mais que ce soit le cas pour vous, vous avez un magnifique outil de travail, comme on dit, bon, un peu, enfin bref, et alors qu'il puisse servir à la gloire de Dieu et que ce local magnifique se remplisse toujours plus par des gens qui ont soif et qui croient. Merci pour votre attention.